Oh, merci, Maître. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous sommes là ce soir devant toi, Seigneur, parce que nous avons soif de toi. Parce que, Seigneur, notre besoin est de mieux te connaître pour mieux te servir. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour répondre à ton invitation, car tu nous veux dans ces lieux, dans ta maison, pour nous instruire. Tu nous veux, Seigneur, dans ta présence, pour nous modeler, nous façonner à ton image. Tu nous veux, Seigneur, là ce soir, pour nous fortifier, Seigneur, dans nos faiblesses. Tu nous veux, ô Dieu, ici, présent, pour nous accorder la liberté, alors que dans tel ou tel autre domaine, nous sommes encore captifs. Tu es là ce soir pour nous donner, Seigneur, d'expérimenter ta victoire, celle que tu as remportée pour chacun de nous à la croix de Golgotha. Ce soir, nous voulons, Seigneur, à l'unisson proclamer ta victoire. Ce soir, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et te dire combien nous t'aimons. Combien, Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Ce soir, nous voulons confesser que tu es le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce soir, nous voulons élever ton nom, car c'est le seul qui nous a été donné d'en haut et par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes délivrés et libérés de l'emprise démoniaque, quelle qu'elle soit. Merci d'avoir transformé la malédiction qui pesait sur nous en bénédiction. Ce soir, tu veux nous combler de tes grâces. Ce soir, tu veux nous donner, Seigneur, de nous immerger dans ta présence. Ce soir, tu veux, ô Dieu, changer notre destinée et nous faire entrer dans ta gloire. Ce soir, oui, ce soir, c'est le grand rendez-vous avec toi. Alors donne-nous d'être dans une grande expectative par rapport à toi, par rapport à l'enseignement de ta parole. Seigneur, nous sommes peut-être venus avec des interrogations. Eh bien, s'il te plaît, donne-nous des réponses. Seigneur, donne-nous des réponses. Ce soir, nos corps ne sont peut-être vides. Alors, donne-nous de les remplir avec ton huile. Ce soir, où nos cœurs sont vides, donne-nous de les remplir avec ta présence. Car il n'y a rien qui vaut, Seigneur, plus que ta présence. C'est la seule richesse qui soit au-dessus de toute autre richesse. Donne-nous d'aimer ta présence. Donne-nous de la chérir alors que nous poursuivons notre marche vers la gloire. Alors que nous continuons notre pèlerinage ici-bas et ce avec toi. Merci de nous bénir, Seigneur, par ta présence et par ta parole. Parle-nous ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur. Dépose ta pensée dans nos cœurs. Que nos cœurs soient, Seigneur, ces réceptacles, ô Dieu, qui vont être vidés de choses inutiles pour être remplis, Seigneur, de choses d'en haut. Affine notre sens spirituel. Seigneur, aimons de nous. Sanctifie nos affections. Et aide-nous à les placer sur les choses d'en haut. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons la parole et la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, notre soirée d'aujourd'hui, donc, est la première soirée dans le cadre de notre séminaire, dont le thème est « Je bâtirai mon Église ». Celui qui parle de bâtir son Église, ce n'est pas l'homme qui vous parle. L'homme qui vous parle, eh bien, est comme vous, pécheur sauvé par grâce. Le « je » là, eh bien, n'est autre que le « je » de celui qui s'appelle « je suis ». C'est ce Jésus-Christ qui est donc censé, c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Et notre texte de référence, vous le devinez sans doute, eh bien, c'est Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13 jusqu'au verset 19, Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Nous lisons. Jésus arrivé sur le territoire des Césarées de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire de Jean, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, Qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ou Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Petros, Kephas, et que sur cette pierre, Petra, ou ce roc, ou Képha, je bâtirai mon église, et que les portes du Hadès ou du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Je bâtirai mon église et rien, absolument rien, ne prévaudra contre mon église, même pas les portes du Hadès ou du séjour des morts. Aujourd'hui, nous allons juste planter le décor. Je vais vous dire des choses que beaucoup d'entre nous connaissent déjà en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ. Mais c'est à partir de demain que nous allons aborder la deuxième partie et avec celle-là, nous irons jusqu'au vendredi, à savoir la dernière soirée du séminaire. Depuis la première effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, et là nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a une préoccupation, une seule. Le Seigneur a une mission qui est prioritaire et une seule, ce n'est pas celle qui consisterait à élever une nation, et ce n'est pas mauvais de prier pour notre nation afin que le Seigneur l'élève, ce n'est pas celle d'ennoblir une culture quelle qu'elle soit pour en faire la culture la plus merveilleuse qui soit, ce n'est pas pour glorifier un peuple. Le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour-là, mes amis, à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'accomplir la mission qu'il a reçue de la part du Seigneur, c'est-à-dire bâtir et bâtir encore l'Église de Jésus-Christ. Partout où le Saint-Esprit agit, partout où le nom du Christ est proclamé, partout là, le Saint-Esprit va chercher des âmes perdues pour les sauver et les introduire dans l'Église de Jésus-Christ. Car l'Église reste une priorité pour le Christ. L'Église reste, mes amis, quelque chose qui compte beaucoup pour lui. Elle nous est présentée comme étant son épouse. Et lorsque lui parle d'épouse, il sait de quoi il parle. La Bible nous dit que l'homme et la femme, dans le cadre du mariage, du moins du mariage biblique, sont appelés à être une seule. Il y a un lien unique et singulier qui unit l'homme à son épouse et vice-versa. Et pour nous montrer, mes amis, la relation particulière, la relation singulière et intime que le Seigneur a avec son Église, eh bien, il va utiliser différentes catégories, différents titres. Notamment, il va nous parler, au travers de sa parole, de l'Église comme étant son épouse, de l'Église comme étant un corps dont il est la tête. Pourriez-vous séparer un corps de sa tête? Ou pourriez-vous séparer la tête du corps? Qu'est-ce que vous auriez? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous auriez? Donc, la construction de l'Église, l'édification de l'Église reste une priorité. Donc, si c'est une priorité pour le Seigneur, s'il est plus préoccupé par le bâtissement, par l'édification, la construction de son Église, eh bien, si nous voulons aimer véritablement ce Jésus, nous devrions aimer autant l'Église que lui l'a aimée au point de donner sa vie à la croix pour elle. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Jésus plus que son Église. C'est pourquoi tout ce qui touche à l'Église, d'une manière ou d'une autre, touche à la personne du Christ et ne le laisse pas insensible. Pensez à Paul, autrefois Saul de Tarse. Cet homme s'est levé et par fanatisme et pour préserver la tradition de ses pères s'est mis à persécuter les disciples de Jésus. Il a demandé l'autorisation de la part du Sanhédrin. Ils lui en ont donné pour aller attraper les chrétiens, du moins tous ceux qui se réclamaient du Christ, les persécuter. C'était donc un criminel, c'était donc un persécuteur d'église. Et lorsque le sang du premier martyr que la Bible nous raconte, c'est-à-dire Étienne, lorsque son sang est tombé, eh bien, ce jeune homme était là, oui ou non? Eh bien, cet homme a continué avec cette rage folle contre l'église du Seigneur, jusqu'au jour où finalement son destin va basculer dans le bon sens du terme. Ce jour-là, sur la route de Damas, le Seigneur lui est apparu. Cet homme qui était assis sur son cheval, cet homme imbu de lui-même, cet homme qui jouissait d'une certaine aura, de par sa position dans la société juive, cet homme-là se retrouve précipité sur le sol. Une lumière jaillit, la lumière l'éclaire, et les rayons de cette lumière étaient plus forts que celles du soleil. Et une voix se fit entendre lui disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes ?» Jésus n'a pas dit, « Pourquoi tu persécutes mon Église ? Pourquoi me persécutes-tu » Tout le mal qu'il faisait, mes amis, aux disciples de Jésus, eh bien, c'était un mal, ou le mal qu'il faisait à Jésus lui-même. Ceci nous montre le lien qu'il y a, indéfectible, le lien qu'il y a entre l'Église et son constructeur, l'Église et son maître, l'Église et son chef, à savoir Jésus et Jésus seul. Amen. Il y a tant à dire sur ce passage que nous venons de lire, de Matthieu 16, 13 à 19. Le contenu de ce passage est très riche en enseignement spirituel, très riche en révélation en ce qui concerne la personne même du Seigneur, en ce qui concerne son Église, la nature de son Église, la vocation de son Église, révélation en ce qui concerne le lien qu'il y a entre lui et son Église et vice-versa. Ce passage, eh bien, est rempli d'enseignements sur le contexte dans lequel, eh bien, allait évoluer l'Église, ou du moins le contexte dans lequel le Seigneur allait bâtir, allait construire son Église. Dans ce passage, nous trouvons aussi des enseignements en rapport avec la confession de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai. Cette traduction, qui n'est pas exacte, a conduit les différentes branches du christianisme à toutes sortes de conclusions. Sur qui ou sur quoi est bâtie l'Église de Jésus? Sur Pierre? Certains en ont tiré la conclusion, aujourd'hui encore, il y en a. Il y a une branche du christianisme qui continue à soutenir Mordecus que c'est sur Pierre, celui qui détient les clés du royaume, qu'est bâtie l'Église, oui ou non? Certains, ceux qui croient. Alors, d'autres fondent le fait que l'Église est bâtie sur la confession de Pierre. D'autres encore sur le Christ lui-même. Voyez-vous, mes amis, il y a tant à dire sur ce passage. Voyez, tant à dire sur cette expression « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». De quelles clés parlait-il? Si vous allez à Rome, vous allez voir des statues, des figurines avec d'un homme tenant des clés. Hein? Ce n'est pas ça les clés du royaume. Ça serait tant facile. Hein? La nuit, vous escaladez la façade, je ne sais de quel bâtiment, vous allez les prendre et vous êtes dans le royaume des cieux. Voyez-vous? Les clés, c'est simplement le symbole du pouvoir. D'ailleurs, il ne sera pas le seul à qui remettra cela. Dans d'autres passages, il remet cela à tous ses disciples. Il y a tant de choses à dire. Ce que tu liras sur la terre sera lié, et ce que tu délieras sur la terre sera lié, délié au, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai entendu beaucoup de choses. Oh, il s'agit de pouvoir de lier les démons. Vous les allez lier les démons ici et puis ils sont liés au ciel. Vous voyez, c'est ça. L'écriture s'interprète par elle-même. Il y a tant à dire là-dessus. Je pourrais faire toute une étude, tout un enseignement là-dessus. Mais pour ne pas vous laisser avec cette interrogation, parce que beaucoup me regardent avec des visages comme pour dire, pasteur, dites-nous. Ce que tu liras sur terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. Il y a là simplement une expression empruntée au judaïsme rabbinique. Dans le judaïsme rabbinique, et je prendrai un exemple en swahili, il y a des swahiliphones dans la salle? Pourquoi je vais prendre le cas du swahili? Parce que le swahili venant de l'arabe, et l'arabe étant une langue sémitique, il y a beaucoup de mots que nous trouvons en arabe, que nous trouvons en swahili, mais aussi que nous trouvons en hébreu. Voilà pourquoi je prendrai le cas du swahili. Pour parler de la notion d'interdire, de défendre et de permettre, le judaïsme rabbinique utilisait le mot « lier et délier », c'est tout. C'est ainsi qu'en en swahili, lorsque quelqu'un observe le jeûne, on dit quoi? Anafunga, il ferme. Et fermer, ça veut dire interdire, il défend. Et quand tu le lèves le jeûne, il dit quoi? C'est une référence au judaïsme. Donc, mais non, ça c'est facile à dire. Mais le problème se trouve dans le texte même grec. Littéralement, écoutez, c'est que le Seigneur dit. Ce que tu lieras sur terre sera ayant été lié au ciel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ce que tu lieras sur terre sera ayant été lié au ciel. Ce que tu délieras sur terre sera ayant été délié. Vous voulez qu'on fasse un peu de français pour comprendre, ou bien ça risque de nous... Ayant été délié, c'est un participe passif, passé. Donc ça nous montre qu'il y a une antériorité entre le fait de lier sur terre. Il y a déjà une action qui a lieu là-haut. Alléluia! Nous ne faisons que faire ce qui a déjà été. C'est pourquoi je vous dis, rien que dans ces passages, il y a beaucoup de choses. Mais pour notre séminaire, eh bien, mon intervention va s'articuler autour de deux vérités principales que nous trouvons au verset 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre, ou tu es Kephas, ou tu es Petros, et sur ce Petra, en grec, c'est clair. Ça ne veut pas dire que c'est sur la personne de Pierre que le Seigneur va bâtir l'Église, alors que lui-même, c'est un pécheur qui a eu besoin de grâce pour être sauvé, oui ou non? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, comme nous allons le voir, celui sur qui est bâti l'Église, c'est une personne, Jésus de Nazareth. Celui qui en est la fondation. On ne peut pas parler d'Église, bibliquement parlant, apostoliquement parlant, si Jésus n'est pas la fondation. Si Jésus n'est pas le fondement. Alors, ça peut ressembler à tout. Ça peut... avoir le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel, tout ce que vous voulez, mais en réalité, ça ne pourra jamais, et ça ne sera jamais, aux yeux du Seigneur, une église. Donc, les deux vérités principales autour desquelles va s'articuler mon intervention dans le cadre de notre séminaire, c'est « Je bâtirai mon église. » Et les portes du Hadès, les portes du séjour de mort, ne prévendront point contre elle. Gloire à Dieu. Nous connaissons donc bien ce passage. Ce passage des évangiles, où sur révélation du Père, eh bien, Simon-Pierre déclare solennellement qui est Jésus. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Et en même temps, nous avons dans ce passage Jésus qui montre, qui nous dit ce qu'il va faire. Il va bâtir son église. Je bâtirai mon... Jésus est le seul qui puisse utiliser le mot, cet adjectif possessif dans les deux sens. Je vais déjà y aller dire. Ce mot, le mot là, a deux sens. Il y a le sens possessif. Quand je dis, ça c'est ma voiture, donc ça m'a, ça c'est le sens possessif. Eh bien, dans ce sens-là, il n'y a qu'un seul qui puisse dire, mon église, c'est Jésus de Nazareth. C'est son église à lui. Nous passerons, mes amis. Mais lui continuera à bâtir son église. Tout passera, mais l'église, l'épouse, demeurera. Car celui qui en est la tête, celui qui en est la fondation, le fondement, s'appelle le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. Donc ces déclarations magistrales du Seigneur, eh bien, nous placent d'emblée devant l'importance de l'église. Non seulement pour le Seigneur, mais aussi pour les disciples. Il s'adresse aux apôtres. Il s'adresse à des hommes qui avaient compris que c'était lui le Messie, que c'était lui le Fils de Dieu, c'était lui le serviteur de l'Éternel, celui dont autant des prophéties de l'Ancien Testament avaient parlé. Tout cela venait de s'accomplir dans la personne du Christ. Donc, il dit cela pour leur montrer toute l'importance qu'il attache à son Église. Mais également, dans cette déclaration, nous pouvons voir l'importance non seulement de l'Église, mais également sa nature. De quelle Église s'agit-il? D'une organisation? D'une structure? Et en même temps, nous voyons la vocation de cette Église. Ce qui nous conduit à la deuxième vérité principale, qui est donc celle-ci, et les portes du séjour des morts, les portes du Hadès, ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons essayer simplement de déterminer le cadre, permettre à chacun de nous de réaliser ce qu'est l'Église, qui en est le chef. Parce que c'est une pensée qui est censée, qui est appelée à nous accompagner tout au long, mes amis, de notre pèlerinage et de notre présence dans l'Église. Il y en a beaucoup qui oublient et qui finissent par se conduire comme si c'était leur propre Église. Mes amis, nous ne devons jamais oublier. Nous ne sommes que des outils, encore des outils inutiles. Nous ne sommes que des serviteurs dont le Seigneur se sert, et nous allons le voir, pour bâtir son Église. Et en tant que serviteurs, nous passerons. Mais lui, le maître de l'Église, est appelé à demeurer éternellement. Gloire au Seigneur. Nous devrions travailler avec cette pensée-là. Il est lui-même. Il est celui par qui et pour qui et de qui sont toutes choses. Celui-là nous dit qu'il veut bâtir son Église. Et depuis la première Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est en train de bâtir son Église. Et ce, dans un contexte très difficile, comme nous le verrons par la suite. Il est en train de bâtir son Église car il en est le chef. Il en est la tête. Le vrai Raïs. Non, je l'ai dit parce que j'ai parlé de l'arabe, non? Eh bien, Raïs vient de l'hébreu roche, qui veut dire tête ou chef, c'est tout. Donc le vrai roche, la vraie tête, le vrai Raïs de l'Église, c'est lui. Nous ne sommes que des éléments qui sont appelés un jour à partir, à entrer dans son repos éternel. Alors que nous partirons, lui continuera son œuvre. Amen. Il en est le possesseur, celui le propriétaire absolu, celui qui a tout le droit. Voyez-vous? Mais le deuxième sens du mot, de cet adjectif, c'est quoi? C'est le sens affectif. Et dans ce sens-là, nous devrions rejoindre le Seigneur dans cette déclaration pour dire « Mon Église ». Alléluia. Il faut que nous arrivions à créer un lien presque charnel, hein, charnel dans le bon sens du terme, parce que je sais, parmi les pentecôtistes, tout est spirituel. Charnel dans le sens physique du terme. Hein. Nous devons avoir un lien presque physique avec notre assemblée. Il faut que nous arrivions à dire la borne, mon Église. Non pas que je la possède, mais j'ai tellement de liens affectifs que je ne peux pas faire autrement que de l'aimer, de prier pour elle, Et par conséquent, je ne pourrais pas accepter que des gens viennent critiquer mon église. C'est comme si les gens viendraient à critiquer mon épouse. Ou viendraient à critiquer votre mari. Est-ce que vous accepteriez? Non, une bonne épouse dirait tout de suite, non, je ne te permets pas de parler ainsi de mon mari. C'est mon chou, ma carotte. Mais enfin, choisissez. Un vrai époux dirait la même chose. Je ne te permets pas de parler ainsi de mon épouse. Si tu as quelque chose, eh bien, tu viens me voir, tu me le partages, mais pas en utilisant des termes aussi méprisants à l'égard de celle qui est la chair de ma chair. Oh, le mariage est un bon. Il y aura un séminaire de couple, je vous donnerai des détails là-dessus. Comme ça, ça va stimuler tous les célibataires. Hein? Il est le possesseur, le propriétaire. Il fait tout. Lui seul. Donc on peut dire mon église, car cette église est à lui. Amen. Commençons avec la première vérité. Je bâtirai mon église. Celui qui parle, ce n'est pas l'apôtre Pierre. Pierre a fait une confession. Pierre, sous la révélation du Père, a vu en Christ, en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas sur lui que va être bâtie son Église. Son Église est bâtie sur lui-même. Nous verrons des textes qui nous montrent que c'est lui la fondation, c'est lui le fondement. Nous devrions tout faire, mes amis, que Jésus soit à l'aise au milieu de nous. Car si lui prend ses clics et ses claques, comme on dit en Belgique, et parte, eh bien, quand bien même nous aurions le nom de Jésus en bouche, nous ne serions plus l'Église. C'est lui qui fait l'Église. Et quand il est là, le Saint-Esprit est là. Quand il est là, le Père est là. Alléluia. Le Père honore le Fils. Le Saint-Esprit honore le Fils. Alléluia. Donc nous avons tout intérêt à tout faire pour que Jésus soit à l'aise parmi nous. Soit à l'aise dans nos vies. Alors nous pourrions lui dire, Seigneur, je t'aime. Et j'aime ton Église. Il est le chef de l'Église. Il est tout. Gloire au Seigneur. C'est sur lui que cette Église est bâti, et est encore d'être bâti. C'est lui la fondation. Voyez-vous? L'église dont il est question dans la parole de Dieu n'a rien à voir avec toutes ces organisations qui se réclament de lui. Ça n'a rien à voir avec les catholicismes, le pentecôtisme, les presbytérianismes, tous les ismes possibles religieux. L'église dont il est question dans la parole de Dieu, c'est le corps du Christ. Le corps spirituel ou mystique, si vous voulez, du Christ, celui qui en est la tête. C'est donc une structure spirituelle. Ce n'est pas une organisation des hommes, car il y a eu tellement d'incompréhension par rapport à l'Église, et ceci a conduit à toutes sortes de choses terribles. Et encore aujourd'hui, il y en a qui se présentent comme étant le chef de l'Église. Quelle folie! Il faut être vraiment... Il faut être plus aveugle qu'un aveugle. Ouais. Pour pouvoir dire des choses comme ça. Ou alors n'avoir jamais lu la Bible. Car on n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre cette parole que nous venons de lire. Je bâtirai mon... La conclusion est très simple, c'est son Église. C'est donc lui qui l'a bâti. Lui, le Christ. Il en est la fondation. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens verset 11, sa première épître, il nous dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Alléluia. Et pas d'autre fondation, mes amis. Oh, que le Seigneur nous aide à avoir toujours le nom, son nom dans la bouche, son nom dans notre cœur. Que nous vivions pour ce nom. C'est le seul qui sauve. Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés, ou vous avez été intégrés dans la construction. L'Église est une construction spirituelle. Vous avez été donc édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, étant la pierre maîtresse. Tout est bâti sur lui et sur lui seul. Gloire à Dieu. Celui qui en est le fondement, la fondation, c'est encore lui qui construit Il est donc la fondation, il est le constructeur, il est l'architecte, il est l'ingénieur, il est le chef de travaux, il est tout, alléluia. Donc, c'est son église. C'est de cette église-là dont il va être question. Puisque c'est une structure spirituelle, puisque c'est le corps spirituel du Christ, eh bien, pour faire partie de cette église, il suffit de passer par la porte. Vous savez, vous tous qui êtes ici dans notre sanctuaire, dans notre grande salle de culte, vous y avez accédé en prenant une porte, une de nombreuses portes que nous avons, oui ou non? Il y a une porte ici, il y a une porte là-bas, il y a une porte là-bas, il y a une porte par là. Voyez-vous, peu importe la porte par laquelle vous êtes passé, le résultat est le même, vous êtes où? Dans ce cas, nous pourrions dire que tout chemin mène à... Mais en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne, mes amis, l'intégration, l'introduction dans le corps du Christ, à savoir son Église, il n'y a qu'une seule porte. Cette porte est une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Cette porte n'a rien à voir avec des traditions, des rites qu'il faille observer. Non, non, mes amis, vous devez recevoir Jésus dans votre vie. Vous devez vous repentir. Vous devez l'accepter, le recevoir comme Seigneur. Alors vous allez connaître cette expérience de la nouvelle naissance. Et cette expérience, eh bien, vous permettra d'être membre à part entière du corps du Christ. D'être une cellule vivante dans le corps de Jésus. Alléluia. De faire partie de cette grande famille de Dieu dont il est le chef, de cette grande famille de Dieu dont il est le sauveur. Et par conséquent, de par votre présence, votre position dans l'Église du Christ, vous serez membre du royaume de Dieu. Et à ce titre, vous êtes appelés à vivre éternellement dans la présence du Père. Alléluia. Paul écrivant aux Thessaloniciens, dans sa première épître, chapitre 1er, le verset 1er, écoutez ce qu'il dit, « À l'Église qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Au-delà de sa présence dans cette ville de Thessalonique, en Macédoine autrefois, au-delà de la présence physique de cette église, eh bien, ceux qui avaient fait l'expérience se trouvaient dans l'église de Jésus-Christ, donc dans le corps du Christ. C'est donc lui qui en est la porte, mes amis. Il n'y a pas plusieurs portes. Aujourd'hui, beaucoup se réclament de lui. Aujourd'hui, beaucoup prétendent lui appartenir. Il y en a qui pensent qu'ils sont chrétiens depuis leur bas âge, depuis leur naissance. La vie de Jésus ne se transmet pas de manière héréditaire. Pas du tout, mes amis. Vous pouvez oublier votre chat dans la basse-cour, c'est pas pour autant qu'il deviendra une poule. Oui ou non? Il sera toujours un chat. Mais pour que ce chat devienne une poule et qu'il atterrisse dans votre ventre, il faudra un miracle. De même, nous sommes nés dans le péché. Pour naître de nouveau, il faut un miracle. Et ce miracle n'est rendu possible que par le Saint-Esprit, et ce au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'encourage, toi qui es là ce soir, toi qui nous suis, qui n'as jamais fait d'expérience avec le Seigneur, s'il te plaît, ne repars pas de ces lieux sans avoir pris la décision. La décision d'accepter Jésus, de te repentir de tes péchés, de dire « Seigneur, viens dans ma vie, viens car je voudrais entrer dans ton église. » Car c'est une chose d'être passé par les différentes portes qui donnent accès ici à notre sanctuaire, c'en est une autre de prendre la porte qui conduit dans l'église de Jésus. Vous pouvez être ici et ne pas être dans l'église du Seigneur. Ah oui, attention. Vous venez simplement parce que il y a des gens chouettes, il y a des gens gentils, sympathiques. Voyez-vous, oui, on a des gens très sympathiques, très gentils. Vous venez parce qu'on chante bien, on a une chorale superbe, avec des voix angéliques. Ah, ils sont humbles, hein, ils n'ont pas osé dire amen. Vous venez parce que c'est formidable, le cadre vous plaît, c'est très bien. Mais au-delà de tout cela, mes amis, vous devriez prendre, et vous devez, prendre la décision ce soir d'accepter Jésus dans votre vie. Tout commence par là.
Vous ne pouvez pas atterrir dans l'église de Jésus comme ça par hasard. Il dit, non, je me suis lancé dans un jeûne de 40 jours, et puis voilà, tout d'un coup, tiens. Oh, formidable, Seigneur, je deviens ton enfant. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas le jeûne, mon ami. Ce n'est pas en allant dans un couvent ni dans une école biblique. Ce n'est pas en sortant avec un diplôme de théologie. C'est en acceptant Jésus dans sa vie. C'est en lui ouvrant son cœur. C'est en l'acceptant et en se mettant à marcher selon sa parole. Gloire à Dieu. Lui, Jésus le Sauveur, des âmes, des esprits et des corps. Lui, Jésus le Tout-Puissant. Celui par qui, pour qui et de qui sont toutes choses. Amen. Je bâtirai mon église. Celui qui l'a bâti. Maintenant, c'est clair, nous savons que c'est lui qui l'a bâti. Nous devons tout faire, ici à la borne, que ce soit lui qui bâtisse. Que ce ne soit pas un homme. Quand bien même il aurait un verbe facile. Que ce soit un homme. Non, mais plutôt le Seigneur. Nous voulons que Jésus soit à l'œuvre. Dès que cette église a commencé, nous avons vu le Seigneur bâtir son église. Nous avons vu des âmes être sauvées. Nous sommes là, non? L'homme par qui il a commencé cette œuvre s'en est allé auprès de lui. Mais lui, le possesseur, le propriétaire de l'œuvre, il est toujours là. Voilà. Aujourd'hui, c'est moi. Un jour, je passerai. Un autre viendra. Lui aussi passera. Mais Christ demeurera. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que ce Jésus demeure. Ne soyons pas comme cette église de la Odyssée à qui il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Nous reviendrons une fois sur ce passage. Quel drame! On a beaucoup utilisé ce passage dans l'évangélisation, c'est vrai. Quand nous apportons l'évangile à quelqu'un, eh bien, Jésus est avec nous, non? Nous mettons Jésus en face du cœur de la personne. Et par notre témoignage, par notre prédication, eh bien, nous amenons Jésus à frapper à la porte de la personne. C'est vrai. Mais le contexte d'Apocalypse nous montre que c'est à une église. À une église qui s'était refroidie. À une église qui avait laissé les possessions matérielles prendre la place du Seigneur. Car c'était une, dans cette ville riche, eh bien, on avait dans cette église des gens qui avaient beaucoup de biens matériels. Et avec le temps, comme je l'ai prêché une fois, celui qui est rassasié méprise quoi? La douceur du miel. Quand on a mangé beaucoup, ben on a plus faim, on a plus soif. Et il n'avait plus soif du Seigneur. Et voilà que le Seigneur lui dit, voici je me tiens à la porte, quel drame. Que cela ne nous arrive jamais, mes amis. Que nous arrivions à un point où le Seigneur se met là-bas et dit, la borne. Je me tiens à la porte, s'il te plaît, ouvre-moi que j'entre. Au contraire, qu'il soit toujours à l'aise parmi nous. Au contraire, qu'il soit toujours le fondement sur lequel le Saint-Esprit bâtit. Au contraire, qu'il soit celui qui utilise le Saint-Esprit pour bâtir son Église. Alors comment le Seigneur bâtit-il son Église? Quels sont les matériaux? D'abord les matériaux, puisque c'est son corps. Puisque c'est une structure spirituelle, eh bien les matériaux sont aussi spirituels. C'est une structure vivante, donc les matériaux sont aussi... Voilà, vous ne pouvez pas construire l'église de Jésus-Christ avec des pierres. Ça, ce n'est qu'un bâtiment qui accueille l'église de Jésus. Vous et moi, nous sommes l'église. Si un jour, par la folie, je ne sais de quelle... de quelqu'un, on arrivait à fermer cette église, ben nous irions quelque part. Ce n'est pas pour autant que l'église cesserait d'être. Ça serait simplement un déménagement. Ça serait simplement changer d'adresse. Et l'église continuera. Donc, comment le Seigneur bâtit-il son église? Cela est important. Puisque nous sommes dans le cadre de son église, il est donc un peu, puisque nous savons que c'est avec des matériaux, que son église est constituée d'âmes vivantes, sauvées, des hommes et des femmes régénérés, nés de nouveau. Alors comment bâtit-il son église? Eh bien, c'est par le Saint-Esprit pour avancer plus vite. C'est par le Saint-Esprit et au travers du Saint-Esprit que le Seigneur bâtit son église. Alléluia. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Paraclétos, un autre consolateur. Il viendra. Il prendra ce qui est à moi et vous donnera. Celui-là me glorifiera. Alléluia. C'est donc le Saint-Esprit qui est chargé de bâtir, de construire l'église du Seigneur. Celui qui s'occupe de son toilettage. Car c'est une épouse, non? C'est le Saint-Esprit qui apporte tous les produits de beauté à son épouse. Pour que celle-ci se pare, pour que celle-ci se maquille et qu'elle soit prête au jour où son époux reviendra. Alléluia. C'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul qui est donc chargé, mes amis, de travailler, de préparer, d'apprêter l'épouse. Et ce Saint-Esprit-là travaille au travers et par des ministères établis. Alléluia. C'est donc au travers des ministères, tels que nous le trouvons dans la parole de Dieu, que Dieu bâtit et construit son Église. L'apôtre Paul, qui a été un des outils dont le Seigneur s'est servi pour non seulement faire avancer son œuvre, mais aussi bâtir son Église à cette époque-là, s'adressant aux Éphésiens, leur dira ceci, vous connaissez le passage, Éphésiens 4, où il est dit, il a donné les uns d'être apôtres. J'aime cette version littérale. Voyez-vous? Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs. Alléluia. Tout cela pour le perfectionnement de l'Église. Tout cela pour l'édification de l'Église. En d'autres mots, le Saint-Esprit, par la prédication de l'Évangile, va chercher des âmes perdues, des âmes mortes, qu'il ravive et qu'il prend et introduit dans la maison de Dieu, introduit dans le corps du Christ. Et dans ce corps du Christ, ces âmes doivent grandir, alléluia. Ces âmes sont appelées à connaître, à découvrir leur place dans l'Église, mais aussi à mettre en valeur ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. C'est là que le ministère intervient. Ce n'est pas au travers des responsabilités administratives, quoique l'administration soit indispensable. Faisons attention. La borne est d'abord et avant tout une église. Nous avons un hôpital, nous avons une école, nous avons une radio. Mais au-delà de cela, la borne est d'abord et avant tout une église. Alléluia. Nous ne devrions jamais oublier cela. Si nous l'oublions, mes amis, nous risquerions d'être simplement une œuvre philanthropique. Ah, c'est tout. Nous risquons simplement d'être une organisation comme il y en a dans le monde entier, qui s'occupe de l'éducation, qui s'occupe de soigner les malades. Oui ou non? C'est tout. Mais nous sommes d'abord l'Église. Et par conséquent, nous devrions privilégier ce qui vient de lui. Car c'est par au travers des différents offices ministériels, que ce soit celui de pasteur, celui d'apôtre, celui de prophète, celui d'évangéliste, et bien par tous ces offices-là que le Saint-Esprit édifie son corps et le rend semblable à lui seul. C'est via le ministère de diaconat, d'anciens, que le Saint-Esprit travaille. Alléluia. C'est pourquoi nous avons des frères et des sœurs qui ont des compétences extraordinaires dans le domaine de l'administration, dans le domaine des finances, dans le domaine du secrétariat, dans tel ou tel autre domaine, mais ils ne devront jamais oublier qu'ils sont d'abord et avant tout dans l'Église. Et nous ne devons jamais oublier que nous sommes d'abord dans
l'Église.
Vous savez, oublier l'histoire, c'est accepter son retour. Ça, c'est un amen pentecôtiste, ça. Vous connaissez tous l'œuvre qu'avait commencé le général Booth. Hein? L'armée du salut. Vous savez, comme son nom l'indique, ce frère avait à cœur de partager l'Évangile. Et en même temps, il était préoccupé par le sort, par la condition sociale de Jean. Alors, il a voulu faire d'une pierre deux coups. Voyez-vous, apporter le social, apporter, donner à manger aux gens, pour finir par les amener à Christ. C'était une bonne vision, oui ou non? Même tous nos ministères, quand vous allez dans des hôpitaux,
pour rendre visite aux gens, n'oubliez jamais la finalité de votre mission. Ce n'est pas simplement d'aller rendre visite à quelqu'un, de lui donner à manger parce qu'il n'a pas de famille, mais au-delà de la nourriture que vous lui apporterez, parlez-lui de l'amour de Jésus. Ça, c'est l'objectif ultime. La nourriture n'est qu'un moyen. Alors, ce frère a lancé son mouvement. Au début, l'armée du salut, eh bien, a gagné beaucoup d'âmes au salut. Mais avec le temps, cette vision a commencé à s'effriter. Avec le temps, l'ennemi, comme nous en parlerons prochainement, l'ennemi très subtil, très rusé, à partir de quelque chose de légitime, donner à manger à ceux qui ont faim, c'est quelque chose de légitime, non? Eh bien, l'armée du salut, en Occident, en Europe, je les ai vus. Aujourd'hui, l'armée du salut ne donne que la soupe aux clochards. Elle donne un gîte et des couverts aux gens démunis, c'est tout. Il ne parle même plus du Seigneur. Alors, ça sert à quoi? Ça devient simplement une œuvre caritative. Et la mission première pour laquelle le fondateur avait monté ce mouvement, eh bien, et a été délaissé. Et aujourd'hui, c'est plus une œuvre caritative qu'autre chose. Et nous devons faire très attention que nous restions toujours la maison de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Non seulement c'est au travers des ministères, car tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste, tout le monde n'est pas appelé à être docteur ou apôtre, que sais-je, voyez-vous. Mais le Saint-Esprit, deuxièmement, bâtit, construit l'église du Seigneur via et au travers des différents dons spirituels. Oh, ma prière, que nous soyons véritablement une église de Pentecôte. Car les dons ne sont pas, mes amis, des Oscars que Dieu donnerait à certaines églises pour avoir atteint le summum de la sainteté. Les dons ont été mis à la disposition de l'église de Jésus. Où que son église soit, elle peut expérimenter la manifestation de ces dons spirituels. Oh, que le Seigneur nous donne d'avoir et d'expérimenter tous ces dons-là. Que nous ne nous contentions pas simplement de dire nous sommes une église de Pentecôte, mais que chaque fois que nous nous réunissons, que nous expérimentions la Pentecôte, que le Saint-Esprit travaille, que le Saint-Esprit nous parle au travers des prophéties, au travers des paroles, des connaissances. Cela est encore valable aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Qui nous aide, mes amis, qu'il allume le feu de l'Esprit, qui nous embrasse de sa flamme. Qu'à chaque fois que nous venons ici, c'est comme si nous montions dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, le feu brûle. Alléluia. Dans la chambre haute, les gens sont secoués, non pas par la chair, non pas par les hommes, secoués par la sainteté de Dieu, secoués par la puissance de l'Esprit. Nous avons besoin de ce don. Par ce don, le Seigneur bâtit son Église. Ce qui a fait la force de la Pentecôte, c'est cela. Il n'y a aucune Église, depuis le XXe siècle, aucun mouvement, qui a connu une croissance quasi exponentielle que le mouvement de Pentecôte. Cela est dû à quoi? Justement, à cette recherche de vivre pleinement la réalité de l'Église de Jésus. C'est-à-dire une structure spirituelle que le Saint-Esprit bâtit au travers de ministères. C'est d'avoir revalorisé tous les ministères, mais aussi d'avoir donné l'occasion au Saint-Esprit de manifester les dons pour l'édification de l'Église. Alléluia. Oui, nous avons besoin de tout cela. Que ce soit par les ministères, le Saint-Esprit travaille, il construit. C'est comme ça que nous avons des frères et sœurs ici à l'église très actifs, que ce soit au département de couple, de fiancés, à l'intercession, chez les mamans, chez les papas, chez les jeunes, chez les enfants. Eh bien, ce sont tous des offices au travers desquels le Saint-Esprit est en train de construire et de bâtir son église. Et nous ne devons jamais oublier. Et dans ce contexte-là, il n'y a rien qui soit petit. Personne ne peut dire, oh oui, mais moi je ne m'occupe que de l'intercession. J'aurais aimé être à la place du pasteur et prêcher tous les dimanches. Si vous pouviez savoir combien ça me coûte. Hein. Le samedi, je ne dors pratiquement jamais. Hein. Ouais. Quand je rentre, c'est le dimanche. Le dimanche dernier, je suis rentré à 13h30 de l'église. Je vais manger à 15h, je suis allé au lit pour me réveiller à 18h. Ah, c'est comme ça, il y a un prix à payer.
Ne dites pas, oui, mais moi je ne m'occupe que de nettoyer la salle.
Oh, j'aurais aimé être comme cette sœur, qui elle, à chaque réunion de dames, elle est là, elle dirige. Je l'envie. Il n'y a pas de petites choses dans le cadre de la maison de Dieu. Il n'y a pas de petit travail pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait pour Dieu est grand.
Alléluia.
Ce qui compte, c'est l'esprit dans lequel on le fait. Alors fais-le de tout ton cœur. Et le Seigneur sera content, car c'est son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Si vous, chaque jour vous venez pour nettoyer, afin que nous puissions nous réunir calmement, sans que nous soyons dérangés par telle ou telle autre poussière, vous faites quelque chose de grand. Et le Seigneur vous bénira et il vous bénit déjà. Vous êtes là chaque jour pour décorer cette salle, pour placer les chaises. Vous faites quelque chose de grand, mes amis. Ne pensez pas que cela est petit.
Voyez-vous,
on en a besoin. Dieu bâtit son église au travers des ministères. C'est là que nous devons les révaloriser. Car à l'heure d'aujourd'hui, du moins dans certains milieux, l'accent est beaucoup mis sur la musique.
Les gens courent après des concerts, je veux bien. Pour certains, la notion même d'église est en train de disparaître dans leur vision spirituelle.
Vous devez avoir une adresse. Vous priez où? Je suis à la borne UPN.
Amen.
Mais il y en a, ils ne connaissent même pas leur père spirituel. Si vous leur posez la question, vous allez où? Dans quelle église? Ah non, mais Nakouen Kakawan. Nakouen Kakawan, ça veut dire quoi? Et encore, c'est pour 6 mois. Les autres 6 mois, ils sont quelque part parce qu'ils ont appris que là-bas, on impose les mains aux gens, on fait sortir les démons par la bouche, et ils vont.
Oui.
Vous les retrouvez partout. Hein? Sans domicile fixe spirituel.
C'est un problème.
Dieu va vous trouver où? Vous risquez qu'ils reviennent. Il sait qu'ils sont à la borne. Alléluia. Il dit, c'est de la borne, venez, hop. Entre-temps, vous êtes en route pour aller je ne sais à quelle extension. Avant d'arriver là-bas, il a déjà appelé ceux de cette extension. Hop! Quand vous arrivez, vous trouvez l'église vide. Il y a grève ou quoi? Est-ce qu'il y a un deuil pour que tout le monde parte? Ayez une adresse où on peut vous localiser. Ou même le Saint-Esprit peut vous trouver et dire, tiens, il y a un besoin là, alors je le prends lui. Il est fidèle. Il y a un besoin là, alors je le prends lui. Il est fidèle. Le jour qu'il y a un besoin, le Saint-Esprit cherche, il dit, mais il est où? Quand il regarde, oh là 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 là. Il est sur la route de Sembao, il dit, mais où est-ce qu'il va encore? Cette instabilité, mes amis, nuit à l'église. C'est comme ça que beaucoup de gens, eh bien, ne sont pas utilisés par le Seigneur. Car les dons, les ministères, tout cela, c'est pour l'édification du corps du Christ. Il faut avoir une adresse, il faut se fidéliser quelque part. Alors Dieu pourra t'utiliser. Mais si tu es partout, à la longue, tu risques de n'être nulle part. Après, il dira, oh oui, mais finalement, tous les pasteurs sont des bandits. Bon, j'ai été déçu, bon, moi je reviens, j'étais bouddhiste, je rentre au bout. Voilà. J'étais 100% ceci, je repars. Et beaucoup sont déçus. Parce qu'ils ont été partout. Donc, par le ministère, et nous devons donner l'occasion au Seigneur de pouvoir utiliser justement tous nos dons, nos talents sanctifiés, le mettre au service de la construction de sa maison. C'est ce qui le préoccupe. Il n'est pas là pour t'élever, afin que tout le monde te voie. La vraie élévation, c'est au pied de la croix. Lorsque le Seigneur te regarde et te voit au pied de la croix, alors tu es élevé à ses yeux. Voyez-vous? Vouloir être absolument vu, vouloir monter sur un piédestal comme nous le verrons, ne vous amènera nulle part. D'ailleurs, la Bible nous dit que ce qui est élevé au milieu des hommes est en abomination, Seigneur. Voyez-vous? Vous pouvez être effectivement élevé, mais ne pas l'être véritablement. Les gens vous trouvent que vous êtes élevé. Il y a des gens qui sont riches, mais ils sont riches pour Dieu. C'est Dieu qui contrôle leur compte. Voilà. Ils ne sont pas esclaves de l'argent, mais l'argent est leur serviteur.
À chaque fois, il regarde, papa, ok, j'ai gagné autant. Est-ce que mon église est dans le besoin? Ah. Parce que l'argent, lui, ne te dira jamais, écoute, amène-moi à l'église. Au contraire, il dira, attention, réfléchis trois fois. Ils courent tous après l'argent, t'as vu, ce pasteur qui vient d'Europe, là. Fais attention. Il y a des riches pour Dieu, et c'est la vraie richesse. Peu importe ce que nous avons. Dès lors que nous le mettons au service du Seigneur, eh bien, il nous bénit. Ça devient une offrande de bonne odeur à lui et à lui seul. Donc, que ce soit via le ministère, que ce soit par les dons, vous aurez remarqué qu'il y a une constante. Quelle est cette constante? C'est l'homme. L'homme au cœur de l'œuvre de Dieu. L'homme au centre. Même lorsqu'il lui donne l'office, lorsqu'il lui donne un ministère, quel qu'il soit, mais l'homme reste prioritaire aux yeux de Dieu. Jamais le ministère qu'il lui donne prendra de la valeur, une telle valeur aux yeux de Dieu, au point d'oublier l'homme. Pas du tout. L'homme reste fondamental. L'homme reste la stratégie de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, nous devrions travailler l'homme. C'est pourquoi j'ai commencé, aussitôt que je repris, par l'enseignement. Et non pas par nommer telle ou telle autre personne. Ça m'importe peu. Je veux d'abord que le Seigneur travaille. Faut que l'homme soit travaillé. Il faut que l'homme retrouve la place qui lui revient dans le corps du Christ. S'il a reçu un ministère, qu'il comprend que ce ministère n'est une opportunité pour se rendre utile. Et non pas une occasion d'être remercié par le Seigneur. Et non pas un Oscar pour lui dire, ah, tu as fait combien de temps à la bord? 15 ans, bon voilà. Toi, tu deviens pasteur. Il n'y a pas de volontariat. Il n'y a pas de volontariat pastoral. Il dit, il n'y a pas de... Ah bon, je me porte volontaire. Je vais assumer le... Non? Malgré votre bonne volonté, est-ce qu'il y a moyen de me donner un peu ça, si vous voulez? Malgré votre bonne volonté, le Seigneur vous dira, je n'ai pas besoin de vous. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire tout sans nous. Il peut tout faire sans nous. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Alléluia. Alors, il ne faut jamais croire que tu es indispensable. Je ne le suis pas. C'est une des leçons que je tiens du pasteur Vernon. Voyez-vous, j'étais assis là où vous êtes assis. Il avait l'habitude de dire, je ne suis pas indispensable. Je ne suis pas utile. Un seul, les anciens se souviendront, un seul est utile, indispensable, c'est le Seigneur. Il avait raison. Voyez. Et même là où j'évoluais, je leur ai toujours dit, je ne suis pas utile, je m'en irai, mais l'œuvre continuera. Voilà. D'autres viendront, ils s'en iront, mais l'œuvre continuera. Pourquoi? Parce que celui qui l'a commencé au jour de la Pentecôte dans Actes, celui-là est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. C'est le grand je suis. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. S'il nous appelle, c'est simplement par grâce, c'est simplement pour nous faire participer à sa joie. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Non, il n'y a rien que nous fassions qui puisse amener Dieu à tomber amoureux de nous. Il n'y a rien que nous puissions faire, mes amis, qui puisse charmer Dieu et lui dire, oh là 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 là, aïe caca. Non! On ne peut pas le manipuler. C'est pourquoi restons humbles. Soyons humbles. Qui que nous soyons, quel que soit notre rang dans la société, quelle que soit la condition de notre cerveau, ça peut être un cerveau à plusieurs étages. Restons humbles. Quelle que soit notre position, nous pouvons être simplement gardiens, sentinelles. Le Seigneur ne regarde pas ça. À ses yeux, nous sommes tous pareils. Il a payé un seul prix pour chacun de nous. Il nous aime de la même manière. Alors arrête, mon ami, ce complexe d'infériorité. Enlève ça. Tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Gloire à Dieu. Quand je travaillais autrefois, nous avions organisé, dans le cadre de notre département d'évangélisation ici, en 88, si je me souviens très bien, c'était à l'hôtel intercontinental une action d'évangélisation. J'avais prêché. À cette occasion, un de mes chefs était venu à l'inter. Il s'est avancé, je lui ai imposé les mains avec conviction. Fais comme ça. Je ne sais pas ce qu'il avait pensé, mais c'est comme ça. Au travail, oui, mais là-bas, il n'y avait pas au NASA chef. Maintenant, en descendant de la chef, je reconnaissais son rang. Vous voyez? Car, comme dit-on en français, à tout seigneur, la Bible nous demande d'honorer ceux qui sont élevés en dignité. Vous voyez? Parce que quelquefois, il y en a qui disent, oh non, moi je suis pasteur. Oui, mais tu es pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens au-dessus de tout? Non, il faut que... Et quelquefois, je suis choqué hein, quand je vois la manière dont certains pasteurs se comportent du haut de la chair. Toi, viens. Une âme pour laquelle Jésus est mort. Nous devrions respecter les gens, non pas en fonction de ce qu'ils sont dans la société, non pas en fonction de leur galon, mais pour ce qu'ils sont, des âmes faites à l'image de Dieu, des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Quand nous allons arriver au ciel, le Seigneur ne va pas prendre la liste. Bon, parmi les sauvés, les professeurs d'université sont d'abord. Vous êtes où? Ok, allez. Ceux qui ont eu à exercer des ministères politiques ou je ne sais pas quoi, vous êtes où? Et moi, dans l'enseignement, oui. Enfin, je ne sais pas s'il y a un ministre de l'enseignement, je dis ça comme ça. Non, il n'y aura pas ça. Il n'y aura que les rachetés. Tous lavés et purifiés dans le sang de l'agneau. Tous, mes amis, remplis de sa gloire. Il n'y aura ni intellectuel, ni abruti, je ne sais pas quoi. Il y aura tous des enfants de Dieu, lavés, sanctifiés dans le sang de l'agneau, tous avec des couronnes qu'ils jetteront à ses pieds, car ils réaliseront que même avec ces couronnes, ils n'auront rien mérité. N'est-ce pas lui qui crée le vouloir et le faire? Alors pourquoi nous remercier? Parce que Seigneur, c'est toi qui as fait ça pour nous. Il nous dira, mais vous avez été fidèles. Vous m'avez permis de faire ce que je voulais faire. Et puisque vous m'avez permis, alors je vous remercie en vous donnant cette couronne. Gloire au Seigneur. L'homme est au cœur de l'œuvre de Dieu. Il donne le ministère à l'homme. Je parle de l'homme dans le sens générique du terme, c'est-à-dire de l'humain. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Hein, je ne sais pas s'il y a des féministes ici, ne soyez pas offusqués. Parce que... ce mouvement prend une ampleur satanique avec leur philosophie sur l'égalitarisme. Elles sont en train de vouloir effacer la frontière qui fait que l'homme soit homme, femme soit femme. Vous voyez, nous devons faire très attention parce qu'elle risque de nous pousser trop loin. Et ça a commencé comme ça, et tout ça, l'homme avec la femme, c'est la même chose. Et aujourd'hui, dans certains pays, on permet à la femme de vivre avec une autre femme. Ah oui, parce que quand vous voyez des thèses de Simone de Beauvoir qui disait que on ne naît pas femme, on le devient. C'est incroyable. Hein? C'est-à-dire on choisit. On choisit. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Et cela contribue à la décadence et à la décrépitude morale de nos sociétés occidentales. Les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes. C'est pire qu'à Sodome et Gomorre. Le jugement est en route. Ça, je vous le dis. Car il y aura un temps où le Seigneur dira fini. Voyez, on a commencé par légaliser ce mariage homosexuel. Et je vous le dis, tôt ou tard, on légalisera le mariage homme-animal. La zoophilie. Ça a commencé comme ça. Et c'est déjà... J'ai vu, il y a quelque temps, plusieurs années d'ici, dans un documentaire, le chien le plus riche au monde. Un berger allemand, son maître était mort, ou sa maîtresse, je ne sais pas, et il lui avait légué toute la fortune. Alors le chien devait garder les habitudes qu'il avait avec du vivant de son maître. C'est-à-dire, s'il partait tout le temps à Nice et qu'il logeait à l'hôtel Martinez de Nice, ah ben, il fallait y aller. Et il y avait un maître chien garde du corps. Et il devait continuer à rouler dans une grosse berline là. Vous vous rendez compte? Un chien. Mais pour l'État français, ça l'arrangeait. Hein? Ah mais oui, parce qu'à la mort du chien qui hérite, c'est l'État qui prend tout.
Ah oui, en Europe, c'est comme ça.
Si vous n'avez pas de successeur, ils vont fouiller un peu partout. Après, l'État met la main, tout. Fini. Le chien. Moi, j'ai vu un cimetière de chiens. Alors, des petites photos. Tu vois un petit toutou là.
Je me dis, si nos consommateurs de Tchibélébélé pouvaient être là. Je n'ai rien dit. Parce que là-bas, on vous arrête. Hein? Vous allez en prison. C'est plus que de la maltraitance d'animaux. Hein? Ça peut être interprété comme un crime.
Donc, l'homme occupe une place importante dans le plan de Dieu en ce qui concerne la construction de son Église. Il n'a pas plu au Seigneur d'envoyer les anges. Regardez le privilège que nous avons, mes amis. Il n'a pas plu au Seigneur d'envoyer l'ange Gabriel, Raphaël, ou que sais-je encore, Michael, pour s'occuper de l'édification du corps du Christ. Non, il a plu au Seigneur de jeter son dévolu sur des pécheurs comme vous et moi, qu'il a lavés, qu'il a sanctifiés, et les utiliser pour la construction de son œuvre, pour l'avancement de son règne ici-bas. Quel privilège, mes amis! Dieu est amour. Soyons-en conscients, mes amis. Lorsque le moment est arrivé de sauver Corneille, cet officier romain, c'était un craignant Dieu, c'est-à-dire un non-juif qui avait cru au Dieu d'Israël, qui croyait en lui. Un jour, il priait. C'était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple de Dieu. Un homme d'une grande générosité. Mais en même temps qu'il cherchait Dieu, il voulait connaître le Dieu d'Israël. La Bible nous dit, un jour, pendant qu'il était en prière, un ange lui apparaît. Il lui dit, Corneille, Corneille, tes prières ont été entendues. Oh, alléluia. Dieu a entendu ta prière et il m'envoie. L'ange n'a pas proclamé l'évangile. L'ange n'a pas montré à Corneille ce qu'il devait faire pour être sauvé. Et pourtant, l'ange le savait, oui ou non? Car les anges, ce sont des serviteurs du Dieu Tout-Puissant, de notre Sauveur. C'est lui qui les a créés, oui ou non? L'ange ne lui a rien dit. Au contraire, il lui a dit, envoie des gens à Joppé. Chez un certain Simon le Corroyeur, les gens qui travaillaient la peau. Et va chercher, aller chercher un certain Simon-Pierre, mes amis. Regardez la grâce de Dieu. L'ange aurait pu très bien lui dire, bon, Corneille, Dieu a entendu ta prière. Maintenant, pour être sauvé, crois en Jésus. Pour être sauvé, confesse son nom. Il ne l'a pas fait, il ne pouvait pas le faire. Non seulement parce que c'est un privilège qui revient aux hommes. Vous savez pourquoi? Une autre raison. Vous savez pourquoi? Mais les anges n'ont jamais expérimenté la vie nouvelle. Évangéliser, c'est mettre Jésus en contact avec le perdu. Évangéliser, c'est plus que donner des informations. Jésus vous aime. Ça, même les démons l'ont confessé. Nous savons qui tu es. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Oui ou non? Ben, n'importe qui peut proclamer ça. Il n'y a que l'homme qui a fait l'expérience de la rédemption. Il n'y a que l'homme qui est passé par l'expérience du pardon. L'homme en qui Jésus vit, qui peut mettre Jésus en contact avec le perdu. Alléluia. Ça, c'est un privilège qui nous échoit. Mes amis, et il est parti, et il a envoyé les gens, et on est allé chercher Pierre. C'est seulement Pierre, en arrivant, qui a proclamé la parole, et vous connaissez le résultat. Le Saint-Esprit est descendu, ces gens ont été sauvés, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, et ils ont commencé une nouvelle vie en Christ. Alléluia. L'homme est la stratégie de Dieu. Dans le corps du Christ, l'homme a une part importante. Alors que les églises sont à la recherche de nouvelles méthodes, soit pour gagner les âmes, soit pour améliorer l'organisation de l'église, alors que des gens sont à la recherche des stratégies de tout genre pour faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu, lui, est à la recherche d'un homme. C'est ce qu'il a dit à Ézéchiel, je cherche un homme. Oh, il y en avait plusieurs à cette époque-là, hein. Mais il a dit, je cherche un homme qui se tienne devant moi, sur la brèche, et ce, en faveur du peuple. Un homme. Il cherche un homme. L'homme est la stratégie de Dieu. Vous occupez une place importante dans l'édification de cette église. Vous occupez une place singulière dans l'édification du corps du Christ. Je cherche un homme.
Je me souviens de ce philosophe grec Diogène qui avait l'habitude, lui qu'on appelait le cynique, de se balader en plein jour à Athènes avec une lampe allumée. Et quand les gens lui demandaient quelle est la raison d'un tel geste, alors que le soleil est là, lui se baladait avec une lampe, il disait, je cherche un homme. Il y avait des hommes, mais pas l'homme. Et lorsque Jésus, on le présentera, on dira, Ecce homo, voici l'homme. Alléluia. Pour sauver la race humaine, Dieu s'est fait homme. Vous avez un prix qu'on ne peut pas estimer. C'est pourquoi, mes amis, verser le sang d'une âme, c'est quelque chose de terrible. Verser le sang d'une âme, contribuer à la mort d'une âme pour laquelle Jésus est mort. Oh, je n'aimerais pas être à la place de certaines personnes, à moins qu'elles se repentent. Parce que ce qui se passe de l'autre côté ne peut pas être décrit en termes humains. Jésus a simplement dit que de l'autre côté, ce sont les grincements des dents. Ce sont des tourments et des douleurs terribles. Personne ne peut s'imaginer, mes amis, les souffrances de tous ceux qui s'en vont sans avoir été lavés, purifiés dans le sang de l'agneau. Jésus nous laisse simplement une photographie. C'est comme quand vous regardez la photo d'un enfant qui souffre de kwashiorkor à cause de la malnutrition, qui a presque la peau sur les os. Ça vous touche, non? C'est tout. Mais être dans la peau de l'enfant, c'est une autre chose. Et nous pouvons nous imaginer toutes les souffrances possibles à propos de ceux qui descendent dans le séjour des morts. C'est pourquoi demain, nous reviendrons là-dessus. Nous pouvons imaginer toutes les souffrances morales, physiques, et même imaginer les souffrances que nous avons connues pour essayer de comprendre les souffrances de ceux qui s'en vont sans Christ. Mais croyez-moi, la réalité est au-delà. Voilà pourquoi Jésus a même pleuré sur Israël, a même pleuré sur Jérusalem. Voyez-vous, l'homme est au cœur, dans le plan, dans la stratégie de Dieu. Il est la stratégie de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'église qui était à Antioche, acte 13, il nous a dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des prophètes. Et pendant qu'il priait, pendant qu'il servait le Seigneur, qu'il célébrait littéralement le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Littéralement, le Saint-Esprit dit ceci, « Mettez pour moi à part. » Voilà la première mise à part. Mettez pour moi à part Saul et Barnabas, ensuite pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont d'abord été mis à part pour le Saint-Esprit, avant d'être mis à part pour l'œuvre. Ceci est important. Ceci est important. Être mis à part d'abord pour Dieu. L'être vaut plus que l'agir aux yeux de Dieu. Ce que nous sommes compte plus que ce que nous faisons. Même ce dont nous sommes capables de faire. C'est pourquoi Dieu se préoccupe d'abord et avant tout de notre bien-être éternel. L'être est au cœur, au centre de l'action de Dieu.
Alors que nous mettons beaucoup d'accent sur le service, Dieu lui met beaucoup d'accent sur le serviteur. Car le service peut être un service extraordinaire, mais avec des motivations impures, oui ou non. C'est comme l'amour. Paul dit, quand bien même je donnerai tout ce que j'ai aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui retentit, qui fait beaucoup de bruit pour rien. Regardez un peu. Quand bien même je donnerai mes biens aux pauvres. Oh là là. Ah. Pour nous, quand vous voyez quelqu'un qui fait ces gestes-là, c'est pas de l'amour? La Bible nous dit qu'on peut faire ces gestes sans amour. Et il dit même, quand bien même je m'offrirai, j'accepterai de mourir pour les autres, si je n'ai pas l'amour. Donc ça veut dire que je peux dire, tiens, au lieu de les tuer tous, tuez-moi, pour être vu. Pour qu'un jour dans l'histoire on dise, oh là 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 là, Yakufa Penza Ponabusson. C'est tout. Il n'y a que Dieu qui voit la motivation. Donc tout cela peut être fait sans amour. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu concerne d'abord l'homme. Le ministère, ça c'est secondaire. C'est l'homme que Dieu voudrait travailler. Que l'homme, c'est l'homme que Dieu voudrait émonder, enlever toutes ses mauvaises branches. C'est l'homme qu'il veut façonner avant de pouvoir lui donner l'office pour pouvoir exercer ce qu'il aura mis en lui. L'homme et encore l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, c'est par l'Église et au travers de l'Église que Dieu se révèle au monde. C'est la seule entreprise de Dieu ici-bas. Comme je l'ai souligné au début, le Seigneur n'est pas là pour mettre en évidence une culture et la présenter comme étant la meilleure des cultures. Dieu n'est pas là pour élever une ethnie. Dieu n'est pas là, mes amis, pour ennoblir je ne sais quelle nation. Non. Partout, dans le monde entier, d'ailleurs Paul l'a dit, là où quelqu'un le connaît, le respecte, Dieu l'aime. Il peut être en Cisjordanie, il peut être en Afghanistan, il peut être ici au Congo, il peut être au Rwanda, il peut être en Ouganda, il peut être je ne sais où. Dès lors que cet homme connaît Dieu, dès lors que cet homme marche avec Dieu, Dieu a son regard sur lui. Vous savez, ces histoires, Dieu a choisi notre pays dans les années 80. J'ai parlé avec un frère, il a été quelque part dans un pays toujours d'Afrique. Il est tombé sur des frères aussi qui prient des pasteurs, qui lui ont dit, Dieu nous a dit. Dieu nous a dit que cette partie-là, de ce pays-là, est à nous. Dieu leur a dit. Dieu les a choisis pour prendre ce pays-là. Comment Dieu peut parler comme ça? Donc vous êtes quoi alors? Vous êtes mieux que ceux-là. Parce que si Dieu vous dit, bon voilà, nous vous donnons ceci. Si Dieu dit, voilà, je prends un exemple. Vous les Katangais, vous êtes trop spirituels. Je vous donne le Bas-Congo. Donc ça suppose quoi? Qu'au Bas-Congo, il y a que des charnels, que Dieu ne les aimerait pas. Au point de leur envoyer des gens qui viennent d'ailleurs. En quoi il aimerait plus les Katangais que les Bas-Congolais? En quoi il aimerait plus les Quinois que les gens des Badolités? Vous pensez que Dieu fait exception des personnes? Attention, il nous aime tous. Quand il te reçoit, il ne voit pas la couleur de tes cheveux. Il ne voit pas la forme de ton nez. Il dit, mais non, j'ai un nez pointu. Ça ne lui dit rien. Seigneur, tu vois, je suis clair de peau, ça ne lui dit rien. Moi, je suis un vrai zwart, comme disent les Flamands. Je suis noir. Un vrai noir. Il y en a qui disent, je suis un vrai noir. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il est arrivé aux États-Unis, une femme, une noire américaine, la regarde, dit, ah, 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 toi, tu es un vrai Africain, tu es noir. Comme nos ancêtres quand ils sont partis d'Afrique. Oui. Donc Dieu ne nous accepte pas en fonction de la couleur de notre peau. Oui ou non? Nous devons oublier tout ça. Il nous accepte parce qu'il nous a fait à son image. Il nous accepte parce que Jésus est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé. Il n'a pas dit il a aimé les latinos plus que les chinois. Ouais. Vous regardez les chinois, il dit ces gens aussi, vous les maudissez. Le Seigneur les aime. Hein? Oh, ils m'ont volé tout ça, oui, mais il les aime. Ils m'ont roulé, mais il les aime. Au lieu de voir en eux de roublards, hein, voyez en eux des âmes à gagner à Christ. Peut-être que c'est un ministre. Vous savez, nous devons changer complètement de vision. Considérer tous ceux qui viennent vers nous, non pas comme des gens qui nous envahissent, mais comme des gens à gagner à Christ.
Alléluia.
Quand vous promenez vers Bon Marché, je ne sais plus le cas, mais à l'époque, j'avais un ministère pour gagner les musulmans. Il y avait beaucoup de Saoudiens, des Libanais. On avait une action, on allait faire systématiquement du porte-à-porte. Combien de fois on nous a mis à la porte? Mais j'ai vu aussi la puissance du Seigneur. On avait été reçus par des Libanais. Il y a même, pour les anciens, il y avait un couple ici, Andrea et Derek. Quand ils ont appris qu'on travaillait parmi les musulmans, ils ont voulu voir ce qu'on faisait. Je les ai invités. On a eu un séminaire pour savoir comment approcher le musulman, etc. Nous sommes partis. On avait un frère qui nous prêtait souvent sa camionnette. Alors avec un parlophone, un frère donc derrière sa camionnette appelait tous les gens à l'hôtel Phoenix, hein, pour ceux qui connaissent un peu Barumbu. Et puis on faisait le porte-à-porte et puis on se retrouverait là-bas. Nous sommes retrouvés avec Derek, chez deux Libanais. Ils étaient gentils de nous accueillir. Et Dieu faisant bien les choses, il y en a un qui venait de Sierra Leone, ça je me souviens très bien, qui ne parlait qu'anglais. Et moi, mon partenaire était américain. Et l'autre était un francophone. On a parlé, cet homme a commencé à pleurer en invoquant Issa, Jésus. Ici, hein? Maintenant, si vous voyez, vous regardez dans tous ces gens que des profiteurs, etc., vous n'aurez pas d'amour pour prier pour eux. Et quand bien même vous prieriez pour eux, ce serait simplement par formalité. Dès que vous quittez de là, ah, Bangoana. Ah, encore Bango. Non. Nous devons considérer cela comme une opportunité. Vous le secouez avec l'évangile. S'il vous maudit, ça ne vous atteindra pas. S'il crache sur vous, tant mieux, on a craché avant votre maître, non? Avant vous, on a craché sur votre maître. Donc, pour terminer, c'est par l'Église, comme nous dit l'apôtre Paul encore lui, que désormais, les principautés, là nous sommes dans Éphésiens 3.10, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes, c'est par l'Église qu'ils connaissent la sagesse diversifiée de Dieu. Amen. Je reviendrai sur la notion de pouvoir et des autorités quand nous allons parler des portes du Hadès. C'est par l'Église, mes amis, que le monde de plus en plus envahi par toutes ces puissances démoniaques. C'est par l'Église que ce monde de plus en plus sous l'emprise des puissances des ténèbres. C'est par l'Église, au travers de l'Église, que ce monde en proie à toutes sortes de malédictions. C'est par l'Église, au travers de l'Église, que le monde, que les autorités démoniaques, que tout ce pouvoir, ces principautés peuvent voir, peuvent connaître, peuvent se rendre compte de la diversité de la sagesse de Dieu. Sagesse qui sauve, sagesse qui libère, sagesse qui restaure. C'est dans l'Église que les Juifs et les païens deviennent un seul peuple, sous la houlette d'un seul chef, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. L'Église est l'habitation de Dieu en esprit. L'Église est le seul chantier.
Alléluia.
Le seul chantier de Dieu sur cette terre. C'est le seul chantier vivant. Le chantier des hommes, on construit, après les murs ne vous parlent pas. Hein. Les routes ne vous parlent pas, ne vous accueillent, c'est tout. Mais le chantier vivant de Dieu, c'est l'Église. Et pour cette Église-là, il a donné sa vie. Pour cette Église-là, il veut que le monde entier sache que c'est par cette Église que la puissance de Dieu peut être mise en évidence. Alors, dans quel contexte le Seigneur a commencé à bâtir son Église? Depuis la Pentecôte, la suprême Pentecôte, la première dans le cadre de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes les époques, par tous les âges, jusqu'à nous, quel est le contexte dans lequel le Seigneur bâtit son Église? Eh bien, lui-même le dit, et ça, c'est ça qui va nous occuper pendant les deux soirs, les deux soirées. Je bâtirai mon Église, et les portes du Hadès, les portes du séjour des morts, ne prévaudront point contre elles. Voilà le contexte dans lequel le Seigneur bâtit, et est en train de bâtir, et bâtira encore l'Église. C'est un contexte de bataille spirituelle. C'est un contexte de conflit, de rencontre des puissances. Alors que la pieuvre des abîmes, la pieuvre des abysses est en train d'étendre ses tentacules funestes sur le monde entier, il est plus que temps que l'Église comprenne qu'elle est appelée à évoluer dans un contexte de guerre spirituelle. Si elle ne lance pas l'offensive et se tient tout le temps sur la défensive, eh bien, elle cédera de plus en plus de terrain. Voyez-vous, il fut un temps, ici à Kinshasa, on organisait des croisades. L'Église faisait peur. Il y a des bars qui sont devenus des églises. Des sorciers ont abandonné leurs pratiques macabres et autres, funestes, diaboliques, pour se retourner au Seigneur. Les prostituées, toutes ces filles, toutes ces femmes qui racolaient les hommes à l'époque, eh bien, ont abandonné leur vie mauvaise, leur vie déréglée, pour se tourner vers le Seigneur. Il y avait une action de l'Esprit incroyable, oui ou non? Je me souviens de cette époque ici à la jeunesse. Certains pourraient se souvenir. Où nous prêchions, avant même que nous fassions la paix, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il y avait des manifestations démoniaques partout. Nous avions une pièce à l'époque, derrière, qu'on appelait l'abattoir, où nous prions pour des gens. Il nous est arrivé de rester, à l'époque, je me souviens, c'était en 87, avec le pasteur Jean Monod de Lubumbashi, qui était venu pour remplacer le pasteur Vernon, qui était parti pour quelques mois de vacances. On restait jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. À un certain moment, parce qu'il logeait ici, il est venu nous aider, tellement les gens étaient secoués par des puissances démoniaques. Dieu travaillait. On a vu des filles changer, qui venaient ici avec des nano-jupes ou des micro-jupes, repartir habillées normalement. On a vu des gens secoués par toutes sortes de choses charnelles, venir célibataire, repartir avec l'homme ou la femme de sa vie. Alléluia. On a vu des guérisons. On a vu des choses extraordinaires. Ce Dieu-là n'a pas changé. Mais aujourd'hui, mes amis, quand vous passez sur le boulevard, quand vous empruntez certaines chaussées ou certaines artères de la capitale le soir, c'est le règne de la chair. Voyez-vous, certaines pratiques qui commençaient à disparaître reviennent avec force. Voyez-vous, l'immoralité, des infidélités conjugales incroyables, toutes ces choses commençaient à disparaître. Et de nouveau, des bars partout. Des danses lascives. Il n'y a même pas moyen de regarder ça. Je ne sais pas. Voyez, voyez. Nous devons faire attention. Vous voyez vraiment la chair qui se manifeste? On se tortille. Tout cela revient. C'est à l'Église de secouer les portes du séjour des morts. Si l'Église ne le fait pas, alors ces portes sont grandement ouvertes pour permettre aux gens d'aller tout droit sans escale dans le feu de la géhenne. Et en ce jour-là, le Seigneur nous posera la question de ce que nous aurons fait de toutes ces âmes. Alors il est plus que temps que l'Église prenne sa responsabilité, qu'il laisse Jésus la bâtir et la construire, que l'Église se lève comme un seul homme et se laisse pénétrer, irradier par les rayons d'amour, de justice et de sainteté qui émanent de la personne du Christ. Que l'Église luise au milieu de cette génération perverse et corrompue. Que l'Église soit ce phare dans notre ville de Kinshasa, de plus en plus plongée dans les ténèbres morales et spirituelles. Oui, l'Église, le sel de la terre, est appelée à jouer, à assumer sa vocation. Pour cela, il faut que l'homme qui la constitue soit un homme mis à part pour le Saint-Esprit et pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit l'appelle. Alléluia. Alors, cette Église-là sera une Église qui fera peur. Quand vous vous leverez, quand nous nous leverons, eh bien, nos ennemis s'enfuiront. L'enfer tremblera. C'est pourquoi nous devons revaloriser la place de l'intercession, revaloriser la prière, non seulement à l'Église, mais dans notre vie personnelle, dans nos réunions, dans notre administration, à l'hôpital, à l'école. Nous voulons que le Seigneur allume un brasier. Le brasier est déjà allumé, mais qu'il puisse souffler davantage sur ce brasier, afin que le feu se répande, les flammes se répandent au-delà, que nous retrouvions la place qui était la nôtre dans le concert des églises et dans le cœur de Dieu et dans le plan de Dieu pour cette ville de Kinshasa, mais aussi pour ce pays. Dieu a déjà fait beaucoup via et au travers de notre assemblée. Regardez toutes ces églises à travers la République, même au-delà, toutes issues de la borne, toutes commencées par des gens qui sont passés par la borne, toutes dirigées par des gens qui ont été formés par la borne. N'est-ce pas une grande bénédiction? Eh bien, cela, je vous dirais que c'était une prophétie, des prophéties que nous recevions dès le départ, que cette église serait une église missionnaire. Nous ne savions pas comment cela se ferait. Mais une chose était sûre, c'est que Dieu ne s'est trompé jamais. Et aujourd'hui, c'est une chose. Mais ne nous contentons pas du présent. Ne dormons pas sur nos lauriers. Ne disons pas, oui, nous avons une église à Badolité. Oui, nous avons une église en Mbandaka. Même dans cette ville, le moment vient où nous devons secouer sérieusement l'enfer. Nous avons un ADN. L'ADN est la borne.
Alléluia.
Nous avons un ADN. Hein? Il y a une âme, la borne, où que nous soyons. Ne serait-ce que par le nom, les gens sont attirés. Et ça nous pose des problèmes avec les églises qui fonctionnaient avant nous. Tiens, en Mbandaka, la borne. À Lubumbashi, oui, mais ils sont en train de construire une énorme salle, formidable. Il y a un ADN, il y a quelque chose que nous avons que les autres n'ont pas. Alors faisons tout pour ne pas le perdre. Au contraire, eh bien, valorisons-le. Alléluia. Et donnons au Saint-Esprit de souffler encore. Et encore, alléluia, clamons le Seigneur. Nous allons, on a dépassé, nous allons passer un moment dans la prière. Ça valait la peine de planter ce beau décor. C'est des choses que beaucoup d'entre nous connaissent, mais la répétition vaut la peine, car elle est la science, la mère de science. Puisque vous êtes assis longtemps, je vous demanderai de vous lever, je vais demander à notre frère de venir et de nous conduire dans un moment de prière. Nous allons prier pour notre Église, selon la direction que le Seigneur lui donnera, avant de pouvoir nous séparer. Prions. Alléluia. Seigneur, merci pour tout. Tu as été avec nous. Tu nous as fait du bien par ta présence et par ton enseignement. Maintenant, repars avec chacun de nous, en nous gardant sur le chemin du retour, jusqu'à ce que, Seigneur, nous arrivions dans nos maisons. Merci de bénir la journée de demain, celle de vendredi, de nous attendre, Seigneur, là aussi, avec un enseignement qui va nous faire du bien. Merci, Jésus, que ta grâce nous accompagne et que ton amour soit avec nous, ainsi que ta victoire. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse.